Radio Campus Paris.
Est-ce que vous pouvez me dire qui est Nathalie Arthaud ?
Nathalie Arthaud, ça me dit quelque chose, je la connais pas.
C'est une femme de lettres qui était surtout spécialisée dans le théâtre.
C'est la famille d'Antonin Artaud.
C'est une navigatrice, non ? J'ai peur de dire une grosse connerie.
Enfin, est-ce que c'est un rapport avec la politique ou pas ? Parce que je sais. Oui.
C'est celle qui a pris la suite de Marie-Georges Buffet ?
Oui, alors Nathalie Arthaud, celle qui a remplacé Arlette Laguier.
C'est une politique.
Et la lutte ouvrière ?
Prolétariat ?
Peut-être le début des années 20, tout ce qui est lié au parti communisme, au syndicalisme.
5 semaines de congés payés.
Ça m'évoque Marx, les idées communistes.
Pour les droits des travailleurs.
Des beaux rêves, mais pas réalisables.
Née le 23 février 1970 à Perrin, dans la Drôme, elle est avant tout professeure d'économie et de gestion. De 2008 à 2014, elle occupe le poste de conseillère municipale à Vaux-en-Velin, près de Lyon. En 2008, elle devient porte-parole de lutte ouvrière. 0,56% de la population lui ont fait confiance aux dernières élections présidentielles de 2012. Candidate aux élections régionales de décembre prochain en Ile-de-France pour lutte ouvrière, Nathalie Arthaud est notre invitée ce soir. Bonsoir Nathalie Arthaud.
Bonsoir.
Loïc, journaliste pour La Matinale, m'accompagne également pour cette interview. Bonsoir Loïc.
Bonsoir Thibault.
Alors Nathalie Arthaud, on vient de l'entendre dans le micro-trottoir d'introduction réalisé par Anna, journaliste pour la rédaction, ce matin dans les rues de Paris. Votre nom ne parle pas à tout le monde, on vous confond avec une navigatrice. Pourtant, vous êtes un personnage majeur quand même de la vie politique française depuis 2008 en tant que porte-parole de lutte ouvrière. Aux dernières élections régionales de 2010, votre parti a fait un score de 0,62%. Quel est l'objectif de se présenter quand on fait un si faible score ? C'est avoir une tribune ?
C'est défendre ses idées. Voilà, vous savez, on est minoritaire. Nous sommes à contre-courant. Voilà, il ne faut pas s'en étonner parce que tous les jours, quand même, hein, du matin au soir, on prêche aux travailleurs, aux exploités, aux plus pauvres, la résignation. Le fait que bah, y a pas d'argent, que c'est la crise, qu'on ne peut rien faire, qu'il faut s'habituer à ce chômage de masse, à ce chantage patronal, à ces bas salaires, etc. etc. Nous disons exactement l'inverse, qu'il n'y a aucune raison de s'habituer. Dans le micro-trottoir que vous avez fait, j'ai bien entendu, hein, ah oui, ce sont des rêves. Eh bien, justement, non, nous ne croyons pas que ce sont des rêves. Nous pensons qu'il y a beaucoup de richesses dans la société. Simplement, tous les jours, on nous explique le contraire, hein, que c'est la misère. Nous sommes à contre-courant, mais nous tenons à défendre nos idées parce que nous pensons qu'y compris les minorités d'un jour peuvent faire des majorités. Voilà, tout ça, ça peut changer à condition effectivement de continuer à défendre nos idées. C'est pas parce qu'on est minoritaire que nous avons forcément tort, hein.
Je ne fais pas le contraire, mais justement, donc du coup, c'est une tribune. Est-ce que votre rêve peut devenir une réalité ?
Ah, moi, j'en suis convaincue. Moi, je suis convaincue qu'on peut transformer de fond en comble cette société pour qu'enfin, elle permette à tout un chacun de vivre dignement.
Alors aujourd'hui,
c'est pas les moyens qui manquent dans la société.
Aujourd'hui, vous êtes, juste pour info, crédité d'1% selon un dernier sondage paru dimanche dans Le Parisien. Votre formation n'est pas au Conseil régional. S'allier avec d'autres partis de gauche ne serait-il pas un meilleur moyen en tout cas pour exister et faire entendre votre voix ?
Alors déjà, il faudrait s'entendre sur la gauche. Qu'est-ce que ça signifie ? Qu'est-ce que ça veut dire, la gauche ?
Le front de gauche.
Bon, parce que si vous parlez de la gauche gouvernementale, et en particulier du Parti Socialiste qui dirige aujourd'hui, écoutez, nous n'avons rien à voir, mais absolument rien à voir, avec ceux qui gouvernent aujourd'hui. Voilà, et qui mènent une politique anti-ouvrière. On l'a vu encore sur la question d'Air France. Regardez comment ils ont choisi le camp du patronat qui licencie, qui impose des sacrifices encore aux travailleurs, qui ment, qui manœuvre, hein, et qui mène une politique violente.
Mais dans cette idée-là, vous êtes d'accord un petit peu avec Jean-Luc Mélenchon, par exemple. Pourquoi ne pas s'allier avec lui ?
Alors, nous disons qu'il faut mettre en avant les intérêts des travailleurs. Dans ce qu'ils ont d'opposé au patronat aujourd'hui, parce qu'il y a une lutte de classe dans la société aujourd'hui, il ne faut pas la cacher, il faut au contraire dire que bah oui, vous savez, c'était même la grande phrase de Warren Buffett qui avait expliqué que bien sûr qu'il y avait une lutte de classe et que c'était les riches qui étaient en train de la gagner. Bah, pour une fois, j'étais d'accord avec un grand capitaliste, un grand représentant de la bourgeoisie, vous voyez, il y a une lutte de classe et nous, c'est bien ça que nous voulons signifier et nous voulons dire aux travailleurs qui sont conscients de la subir aujourd'hui, et qui ne se résignent pas justement au coup qui leur tombe dessus, de prendre la parole, de le dire. Et vous voyez, ce n'est pas du tout les axes de campagne de Jean-Luc Mélenchon, ou même ce qu'il défend. Hein, quand vous l'écoutez, Jean-Luc Mélenchon nous explique que non, en réalité, tout ça, c'est conciliable, hein, qu'il faut défendre les intérêts généraux de la France, comme s'ils existaient. Nous ne pensons pas, nous, qu'il y a des intérêts généraux dans le pays. Et nous pensons que tous ceux qui nous expliquent qu'il y a l'intérêt de l'entreprise en général, eh bien, juste, ils font passer sous la table les intérêts, en fait, des travailleurs et des ouvriers à qui, aujourd'hui, on impose sacrifice sur sacrifice.
Oui. Entendre le camp des travailleurs, c'est votre slogan de campagne pour ces régionales, dans 12 et 13 nouvelles régions. Il n'y a que la Corse, hein, où vous ne serez pas représentés. Qui sont les travailleurs, aujourd'hui, en 2015?
Eh bien, d'abord, il y a d'abord les ouvriers, puisqu'on nous explique que maintenant, il n'y a plus d'ouvriers. Mais attendez, rien ne fonctionnerait s'il n'y avait pas d'ouvriers. Mmh. Il y en a certes moins, et encore, il faudrait regarder dans le détail, parce que vous savez, aujourd'hui, avec la sous-traitance, avec l'intérim, vous n'êtes plus comptabilisé dans le secteur ouvrier. En réalité, vous faites un travail d'ouvrier, et vous êtes surtout considéré, payé, traité comme effectivement l'ouvrier, c'est-à-dire à devoir obéir sans jamais avoir la parole. Et ça, c'est le cas, mais de nombre d'employés, et c'est même le cas maintenant de plus en plus de cadres. Donc pour nous, les travailleurs, c'est l'ensemble de ceux qui ne vivent que de leur travail et qui n'exploitent personne. Donc ça va jusqu'aux pilotes d'avion d'Air France, qui n'accepte pas de travailler sans heures de plus, vous voyez. Donc c'est ça l'ensemble des travailleurs du monde du travail. Nous, on fait une différence, voilà, entre ceux qui doivent vendre leur force manuelle et leur force intellectuelle pour vivre, qui doivent trouver un acheteur sur le marché, et qui sont dépendants, qui sont, d'ailleurs, c'est la définition du contrat de travail, c'est un lien de subordination. Vous avez qu'à obéir, vous faites ce qu'on vous demande, voilà. Et puis les autres, ceux qui, parce qu'ils disposent du capital, peuvent au contraire disposer à leur guise de dizaines, de centaines, de milliers de travailleurs. Donc pour nous, c'est ça les classes sociales.
Aujourd'hui, vous n'êtes pas le seul parti à revendiquer la défense des travailleurs, le Front National aussi. Et il se trouve qu'aux dernières élections, 43% des ouvriers ont voté pour le parti de Marine Le Pen, 38% des employés. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas voté pour vous?
Mais c'est pas la défense des travailleurs que le Front National prétend faire. Non, lui, il veut utiliser les voix des ouvriers qui sont désespérés, qui sont écœurés, qui se sont sentis trahis par tous les partis qui se succèdent, et d'abord et avant tout, justement par ces partis de gauche, dans lesquels il faut inclure les amis de Jean-Luc Mélenchon, et Mélenchon lui-même d'ailleurs, parce qu'il a été ministre, Jean-Luc Mélenchon, qui se sont trahis, qui y ont cru à plein de reprises, parce que c'est pas seulement Hollande, c'est aussi toute l'histoire avec Mitterrand, parce que la gauche, c'est pas nouveau. Qu'elle vient au pouvoir pour faire une politique anti-ouvrière. Donc tous ceux-là qui ont été, à qui on a dit « Votez bien, vous allez voir, on va changer la vie, etc. » qui y ont cru, eh bien ils sont tombés effectivement, ils sont tombés de haut et ils se sont aujourd'hui abandonnés. Et ils sont encore dans le réflexe finalement de l'électoralisme, où il faut choisir un sauveur suprême, parce que ça c'est quelque chose qui reste. Et ils disent on va essayer. Et c'est ça, le Front National, donc, il va surfer sur un certain nombre de préjugés réactionnaires, racistes, qui sont en train de remonter à la surface, pour justement s'accaparer ces voix-là. Mais pas pour faire une politique en faveur des travailleurs, parce que c'est tout le contraire, la politique du Front National.
Et comment vous pouvez les rattraper, les ramener chez vous?
Mais la seule façon de combattre le Front National, c'est de proposer des perspectives aux travailleurs et de dire à tous ceux qui sont écœurés par la politique menée qu'ils ont raison d'être écœurés. Bien sûr que c'est une politique qui est choquante, qui est révoltante même, de nous chanter comme ça toujours cette misère, ce chantage à la compétitivité, au coût du travail. Bien sûr que tout ça, c'est écœurant, de nous expliquer que si ça va mal, c'est peut-être à cause du manque de flexibilité, c'est peut-être à cause que le code du travail, il est trop gros. Il y pèse trop lourd. Tout ça, bien sûr que c'est révoltant, mais c'est pas parce qu'on veut rejeter la droite, le Parti socialiste qu'on voit au gouvernement, qu'il faut se jeter dans les bras de n'importe quel politicien qui passe et qui promet.
Mais quelle est votre stratégie pour les ramener vers vous, justement?
Donc, eh bien, c'est de dire aux travailleurs que s'ils ont des intérêts propres à eux de classe, et que on peut bien sûr contester aujourd'hui cette politique patronale, on peut revendiquer notre dû, on peut combattre le chômage, mais ça dépend du rapport de force.
Donc, du coup, avoir plus de gens qui votent pour vous?
Non, du rapport de force que les travailleurs d'ailleurs, ils peuvent imposer dans la rue, dans les grèves, dans la mobilisation. Ça dépend de leur union, de leur détermination, de leur conscience aussi. De leur conscience, justement, d'avoir à prendre l'argent là où il est.
Vous pensez que les gens sont résignés aujourd'hui ?
Les décisions. Ils sont aujourd'hui passifs. Passifs.
Passifs, pas résignés.
Non, parce que la résignation, c'est trop définitif. Moi, je crois que tout ça, ça peut changer très vite. Regardez. Ceux d'Air France, ils étaient...
On reviendra sur Air France.
Quoi, passifs, résignés ?
Tout à l'heure.
Je crois qu'ils étaient très en colère. Ils étaient très en colère. Alors moi, j'espère que cette colère, un jour, oui, elle s'organisera. Et qu'elle se transformera en une démarche pour imposer un rapport de force qui fasse tellement peur, justement, à tous ceux qui dirigent, qui s'octroient des parachutes dorés, des salaires en or, là, qui se permettent de distribuer leurs dividendes à tout va, qui leur fassent peur et qui, du coup, les obligent à lâcher un certain nombre de choses. Donc voilà, c'est en renouant, si vous voulez, avec les perspectives qui sont propres aux travailleurs. C'est sûr que ce n'est pas nouveau. J'ai entendu, oui, 1920, bien sûr que c'est pas nouveau. Bah, depuis qu'il y a des ouvriers, bah, il faut qu'ils se battent. Il faut qu'ils se battent pour qu'on leur paye leurs heures supplémentaires, pour qu'on leur donne, pour qu'ils aient un minimum de droits, il faut qu'ils se battent. Et bien ça, il faut que ça continue. Toutes ces idées, elles ont été discréditées.
Donc continuer.
Mais il faut, nous pensons qu'elles sont d'actualité et que c'est même l'avenir en fait.
Donc continuer de se battre, c'est votre slogan au niveau national. On reviendra tout à l'heure sur les régionales, je vous propose de faire une petite pause. Speaking Machines de We Are Match.
La matinale de 19h du lundi au jeudi jusqu'à 20h sur Radio Campus Paris.
19h et 18 minutes sont passées, nous sommes de retour sur Radio Campus Paris avec Nathalie Arthaud, candidate de lutte ouvrière au régional de décembre prochain en Ile-de-France. On a beaucoup cherché, Nathalie Arthaud, sur votre site internet Lutte Ouvrière. On n'a pas vu de véritable programme pur et dur pour, en tout cas, la région Île-de-France. Beaucoup d'indignation sur des sujets divers et variés de la société et notamment qui implique le patronat. Au printemps dernier, vous avez déclaré qu'il était trop tôt pour annoncer votre programme. Nous sommes aujourd'hui le 7 octobre, deux mois des présidentielles, pardon, j'anticipe, des régionales. C'est dans deux mois, donc concrètement, ce programme, il va sortir quand et quelles seront les principales lignes de ce programme?
Alors, je vais vous dire, surtout
pour l'Île-de-France,
notre démarche, c'est que ces élections régionales, elles ont lieu en même temps à l'échelle de tout le pays et il ne vous aura pas échappé qu'en réalité, c'est un combat politique national. Hein, c'est que aujourd'hui, regardez ce qui fait l'actualité des élections régionales. C'est les dérapages. Les propos abjects de Nadine Morano, par exemple. C'est les meetings que Marine Le Pen anime à Calais. C'est-à-dire que ce sont des sujets nationaux. Qui va voter en fonction des programmes régionaux?
On sait qu'il peut y avoir...
Peut-être quelques-uns, mais la réalité, c'est que c'est un combat politique national. Et nous disons aux travailleurs qui sont conscients qu'ils doivent intervenir dans ce débat pour mettre en avant leurs intérêts, leur point de vue, leurs exigences à eux de le faire et de le faire en votant justement pour une liste qui clairement avance des revendications de classe.
Ben justement, on va parler de sujets nationaux qui peuvent être traités au niveau local. Vous parlez des immigrés sur votre site internet et votre indignation face à l'insalubrité et, et l'accueil des migrants. Quelles sont vos solutions concrètement en Île-de-France si vous êtes élue présidente pour pallier ces problèmes?
Mais là, c'est typiquement, vous voyez, le problème qui, de toute façon, ne peut pas être résolu à l'échelle d'une région, d'une ville et qui est un problème national. Et ça, c'est vrai pour beaucoup en réalité. Hein, on veut nous enserrer là dans des compétences régionales, mais prenez le logement, prenez le transport, en fait ça recouvre tout un tas de problèmes qui sont nationaux. Et d'abord le problème du chômage. Alors pour les migrants, moi je vais vous donner mon point de vue général, pas lié à l'Île-de-France. Mais
c'est pourtant une élection régionale.
C'est une élection régionale et nous, si nous avons des élus, nous aurions une attitude très claire à soutenir tout ce qui est favorable aux classes populaires, aux plus pauvres, aux travailleurs, et on dénoncerait tout ce qui est de l'ordre des cadeaux aux entreprises. Et ça se fait par dizaines, voire par centaines de millions, hein, les cadeaux aux entreprises dans la région. Donc voilà ce qu'on ferait maintenant. La réalité, c'est que le soir même du premier tour... Qu'est-ce qui va se passer? Quels seront les commentaires? Ça sera de calculer les rapports de force entre les différents partis.
Mais ça, c'est ça propre sera à déjà... toutes les élections, ça.
Mais particulièrement...
C'est le cas aussi pour les municipales, les départementales.
Particulièrement pour une élection qui se fait, justement, peu avant la présidentielle, qui va être pour tous les partis, en fait, un galop d'essai, et dont on voit que les enjeux et les discussions sont des questions de politique nationale. Donc nous allons en profiter, oui, pour dire aux travailleurs, il faut, sur toutes ces questions-là, donner son point de vue.
Et en particulier sur les migrants. Sur les migrants, vos solutions, concrètement.
Nous sommes pour la liberté de circulation et d'installation. Et nous pensons que toute autre politique est criminelle. Et la politique de Hollande, qui consiste à accueillir, et je mets des guillemets, parce que quand on voit l'accueil, hein, en quoi il consiste, c'est-à-dire l'expulsion de camps, les matraques, les barbelés, hein, à Calais, quand on voit ça, on peut se douter d'ailleurs de l'accueil, mais même 24 000, c'est notoirement insuffisant. Donc c'est aussi une politique criminelle. C'est une politique criminelle ici, pour l'arrivée, mais c'est une politique criminelle qui est menée aussi en Syrie, aussi en Irak, parce que ces bombardements, ces guerres incessantes et ces intérêts impériaux sont à l'origine de cette catastrophe-là.
Mais les accueillir, vous êtes pour l'ouverture des frontières, très bien,
oui.
Mais les accueillir, comment on les accueille? Avec quels moyens? En Île-de-France, concrètement?
Mais vous savez, si on avait la volonté de les accueillir, ne serait-ce qu'en imposant ne serait-ce que de 10% les grandes fortunes, ces grands groupes capitalistes, on aurait les moyens.
Les moyens de construire et de...
Et les moyens de... En plus, ce qui est fou, et c'est là qu'on voit qu'on est dans une société inhumaine, c'est que ce sont des femmes et des hommes qui viennent, mais qui ne veulent pas être des assistés. Ils veulent travailler. Ils veulent justement créer des richesses. Ça ne devrait pas être considérés comme des fardeaux, ça ne devrait pas être considéré comme des problèmes dans une société normalement constituée, où il n'y aurait pas justement cet obstacle-là à un des capitalistes qui décident de où ils investissent et s'ils embauchent ou pas, et qui sont des véritables obstacles au développement de l'économie, ça ne serait pas des problèmes. Donc nous, de toute façon, nous pensons que c'est un problème vital de solidarité, et puis simplement, les migrants, c'est nous. Voilà, c'est nous.
On est tous des migrants.
Nous sommes tous des migrants, ça c'est sûr, et des migrants, pour ceux qui n'ont pas encore migré, des migrants potentiels.
Loïc.
Une autre question importante qui concerne les étudiants en Ile-de-France, ils sont très nombreux, et peut-être qu'ils se posent la question avant d'aller voter, quelles sont les propositions des candidats? Alors vous, Nathalie Arthaud, présidente de la région Ile-de-France, quelles seraient vos propositions concrètes pour améliorer les conditions d'accès au pour faciliter l'accès au logement des étudiants en Ile-de-France?
Bon alors, moi, président de région, ça c'est un peu de la politique fiction. Hein.
Vous pouvez faire comme François Hollande, moi, président.
Je ne jouerai pas à ça, moi, justement. Non, mais nous, notre politique, elle est au-delà de ça. Et même par rapport aux jeunes, c'est justement cette politique de ne pas accepter le statu quo. Parce que je veux bien qu'on trouve les moyens, peut-être, d'améliorer un tout petit peu le logement des jeunes. Mais attendez, ça fait combien de décennies qu'il y a un problème pour loger les étudiants? Ça fait même combien de décennies qu'il y a un problème pour loger les travailleurs?
Il y a des problèmes, mais familles. Mais concrètement, vos solutions?
Il y a un tas de problèmes qu'on ne résoudra pas sans remettre profondément en cause la société.
Et comment on la remet en cause, cette société?
Profondément en cause ce qui la dirige, ce qui la domine, toutes ces puissances économiques.
Comment on la remet en cause?
Eh bien, nous pensons en renversant la bourgeoisie, en contestant le fait que ces gens-là, en vertu du fait qu'ils ont apporté les capitaux, ils ont le droit de tout décider. Ce qui va être construit, ce qui va être investi, ce qu'on va consacrer à la spéculation, etc. Et finalement, ils décident de tout. Ils organisent toute la vie économique et du coup, la vie sociale. Nous contestons à cette minorité-là le droit de décider pour tout le monde. Et qu'enfin, toutes ces richesses et toutes ces potentialités, toutes ces possibilités dans la société, qu'on puisse ensemble discuter de ce que nous en faisons. Elles sont fantastiques, ces possibilités-là. Donc, mais ça nécessite de changer la société et de s'appuyer sur tous ceux, justement, qui en souffrent de cette société, qui en sont les victimes.
Loïc.
Donc, les travailleurs.
Autre thématique importante des régionales, hein, les transports. Valérie Pécresse, en tête des sondages publiés dimanche dans Le Parisien, on en a parlé tout à l'heure, propose et annonce une révolution dans les transports si elle est élue, avec le maintien du prix unique pour Navigo. Donc déjà, j'aimerais savoir ce que vous en pensez. Et surtout, elle propose l'ouverture en continu de la ligne 1 et de la ligne 14. Quel est votre point de vue là-dessus?
D'abord, moi, je pense que des promesses, il va y en avoir. En veux-tu, en voilà.
Hein, surtout que le transport, c'est quand même très important. Ça fait partie, selon le sondage, encore une fois, du Parisien, avec l'insécurité, le développement durable et le chômage, bien évidemment, des préoccupations qui intéressent le plus les franciliens.
Ben ça, c'est sûr, parce que quand on voit qu'en moyenne, c'est de 1 à 1h30 de transport aller et retour pour la grande majorité des franciliens, bien sûr que c'est un gros problème. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils vont tous surenchérir sur les promesses. Il faut quand même bien comprendre que les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Regardez comment, y compris Hollande, le lendemain même de son élection, il a remballé toutes ses promesses, il les a mises de côté. Qu'est-ce qui vous dit que demain, Pécresse, arrivant à la région, va dire « Ouh, j'avais pas vu que finalement la facture laissée par les socialistes était tellement grande, finalement je ne peux plus acheter les 700 nouvelles rames que j'avais promis, etc. etc. » Donc ne croyons pas à tout ça. Hein, et surtout, voilà, il faut être conscient que les progrès qui seront réalisés à tous les niveaux, que ce soit au niveau de la lutte contre le chômage, sur l'hébergement, sur le transport, il va falloir se battre pour les arracher. Parce que vous voyez, même y compris par rapport au transport, il y a aussi le problème de du financement. Qui est-ce qui finance? Ben moi, je pense qu'un des principes, ça devrait être que ce soit le patronat qui finance les transports. Parce que ce sont des transports qui sont contraints, qu'on nous oblige.
Ils en prennent une partie dans certaines entreprises quand même.
Mais nous pensons que ça devrait être la totalité. Parce que vous comprenez, quand il faut faire 20, 30 kilomètres, quand il faut aller habiter en banlieue parce qu'il n'y a pas de logement accessible au salaire qu'on a, parce qu'on nous impose des salaires trop bas, parce qu'on nous impose la précarité, etc., qu'on nous impose de faire tous ces transports-là, eh bien il faut que le patronat il en assume le coût. Donc ça, c'est un principe que nous défendrions à la région. Mais on est bien conscient que pour que ce principe devienne réalité, l'égalité, il faut encore une fois un rapport de force. Il faut se battre. Il n'y a rien qui nous tombera tout cuit dans le bec.
Rapidement, un mot d'actualité, Air France, ce qui s'est passé lundi, vous trouvez ça normal ?
Moi, d'abord, il y a eu une grande manifestation à Air France lundi.
Est-ce que vous trouvez ça normal ?
2000. Et moi, je pense que la colère, elle explose. C'est tout à fait... C'est logique. Hein, et c'est les patrons d'Air France qui sont responsables de ça. Ils ont un retour de manivelle de leur propre politique, qui a été une politique extrêmement violente, qui a exacerbé effectivement les tensions, parce que ça a été sacrifice sur sacrifice là, depuis 4 ans. Donc là, ils ont effectivement un retour de bâton. Mais il faut qu'ils s'attendent à quoi, tous ces gens-là qui dirigent, qui imposent leurs lois, que les travailleurs ils s'inclinent,
mais arracher la chemise d'un homme, quand même, c'est violent quand même, la violence. Bon, donc du coup, vous prenez la révolution par la violence ?
Moi, ce que je pense, c'est que la véritable violence, elle n'est pas dans ce camp-là. La véritable violence, elle est dans le camp de tous ceux à qui on enlève son emploi, ses perspectives, etc. Moi, je milite pour qu'il y ait un rapport de force collectif, conscient, pour que ça soit organisé, parce qu'il n'y a que ça qui
mais
peut être efficace.
Mais c'est contre-productif, vous êtes d'accord ?
C'est pas en
toute la France a l'impression que tout le monde se met à dos les employés d'Air France avec
ça. Dénoncer. C'est une campagne médiatique ignoble. C'est du matraquage médiatique qui cache la réalité. Qui cache la réalité que la violence, elle a été subie dans leur vie, dans leurs conditions de travail depuis 4 ans. Qui cache le fait que c'est une direction qui ment, qui manœuvre, qui essaye d'opposer les uns aux autres. Donc c'est ça la réalité qu'on oublie. On oublie, voilà, parce qu'il y a quelques images qui sont très, sur une histoire d'une chemise perdue. On oublie les 2900 emplois qui vont être supprimés. Et c'est moins télégénique.
C'est moins télégénique, mais on en parle également.
Que de filmer les queues devant Pôle emploi ou au restaurant du cœur. Mais ça, c'est une grande violence et c'est la violence sociale la plus importante.
On a entendu votre avis là-dessus. Alban, notre journaliste, était à côté et a écouté la matinale. Il y a peut-être des réactions à nous faire.
J'ai surtout une question. Bonsoir Nathalie Arthaud. Vous avez dit que ces élections régionales étaient un combat politique et national. Alors une campagne électorale, ça ne se fait pas que sur le web, mais ça se fait aussi sur le web. Alors j'ai été vérifié, sur Twitter vous avez très exactement 144 abonnés, sur Facebook vous avez 332 fans. Alors titre de comparaison pour nos auditeurs, Valérie Pécresse, donc des Républicains, a elle 154 000 followers sur Twitter et 46 000 fans sur Facebook. Alors la question c'est simple, est-ce que vous avez l'intention de développer votre présence sur les réseaux sociaux avec cette campagne pour les élections régionales ?
Bah écoutez, oui, petit à petit, l'oiseau fera son nid.
Une dernière question rapidement, vous avez déclaré qu'il y aurait un candidat Lutte Ouvrière en 2017, vous serez la candidate ? Oui ?
Alors,
non ?
Ça c'est sûr, il y aura un candidat, moi je me prépare, je suis disponible, mais c'est mes camarades qui décideront quand même, collectivement, ils le feront à notre prochain congrès.
Très bien Nathalie Arthaud, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, merci à Loïc et Alban.
Merci.
Radio Campus Paris.